What is this, Connor?
Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Great
easy. It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fatti fisso? Come fatti fisso?
Bonjour à toutes et à tous les cinéphiles, bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et aujourd'hui, on parle stéréotypes de genre, violence et émancipation, à peu près, je
pense. Ah ouais, carrément.
Avec Cathy.
Salut Sophie, salut Sylvain.
Salut Cathy. Olivier, qu'on vient d'entendre, bonjour Olivier.
Bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
Et bonjour Sylvain.
Bonjour.
Oui, autour de quelques films, Natacha Presque, Hôtesse de l'air, on commence par le meilleur, Black Box Diaries, Mikado, Cassandre et Black Dog. Et oui, puisque j'ai lu une critique contre toute attente, c'est drôle, féministe, bien écrit et bien joué, un film d'aventure divertissant digne d'un OSS 117, c'est lui, Natacha. C'est elle.
Depuis sa plus tendre enfance, Natacha n'a qu'un rêve.
Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence.
Devenir hôtesse de l'air.
Wow.
Bonjour.
Hello.
Hello.
Malheureusement, elle ne coche aucune case avec ses cheveux plats et ses 2 cm de trop.
Avec ton père, on est un peu inquiet. Tu vas finir vieille fille.
Mais mon rêve, c'est de voyager.
Non, mais dis donc, dis. Alors.
Mais le destin va peut-être lui permettre de réaliser son rêve.
Chers amis, j'ai pris la décision de voyager en personne avec notre chère Joconde.
C'est un hold-up. Personne ne bouge.
Enfin, ça a l'air mal barré.
Alors, pas moi, prenez-la.
Aïe, 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 prenez-la, elle, ça y est, tout part en vrille. Et la critique en question, eh bien, c'était Cathy qui a déposé ses mots, qui nous a dit, bah, oui,
mais... Il semblait bien que je reconnaissais, ouais.
Ouais, ouais, sa plume. Mmh. Ouais. Donc, Natacha Presque, Hôtesse de l'air, de Noémie Saglio, avec Camille Lou, Vincent Dédienne, Didier Bourdon, aussi Elsa Lieberstein, Isabelle Adjani, incroyable. Et vous avez entendu la voix de Fabrice Lucchini. Alors,
intéressant Cathy. D'ailleurs, donc, sans révéler, parce qu'il faut aller voir le film pour ça, mais le traitement de la voix off, pas mal. Oui, eh bien, je veux dire d'abord rendre hommage à la personne qui m'a incité à aller découvrir le film, qui est Véronique Lebry, que vous connaissez, voilà, qui est journaliste et qui a ce site sur lequel elle fait plein de critiques de films qui s'appelle Cinéwoman, où elle met en avant bien sûr toujours les réalisatrices et elle écrit formidablement bien sur plein de films qu'elle va voir et qu'elle découvre, et là effectivement
qui est médiatrice pour les rencontres du cinéma d'Europe,
et qu'effectivement elle m'a très bien vendu le film, et je me suis dit tiens mais comment, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et je suis donc allée voir Natacha Presque, Hôtesse de l'air. Et effectivement, pour moi, vraiment, c'est une parodie, on va dire, anachronique et engagée, basée sur une franchise quand même qu'on connaît tous, je pense, toutes et tous, c'est Natacha, la bande dessinée, qui a été créée dans les années 70, dans le journal Spirou. Qui est né comme ça, en tout cas. Et donc, le film est totalement dans cette lignée, avec beaucoup d'humour. Ça revient vraiment dans l'esprit des années 70 et de la place de la femme. Enfin, ça recentre la place de la femme. Donc là, avec les parents de Natacha, où la mère est au foyer, elle va servir la Suze tous les jours à la même heure de son homme. Voilà, lui, boit de la Suze, en l'occurrence. Eh oui. Donc, elle va... des injonctions depuis sa cuisine pour venir lui porter ci, lui porter ça. Enfin, bon, bref, le cliché total. Mais avec ça, c'est aussi une façon de le dénoncer, mais avec humour. Et puis, on a Natacha, donc, qui, dès l'enfance, est sûre d'une chose, c'est qu'elle sera hôtesse de l'air, parce qu'elle, elle ne veut pas être femme au foyer. Elle veut voyager, elle veut voir du pays, comme on dit. Donc, son objectif, dès qu'elle va pouvoir, c'est de passer l'examen pour être hôtesse de l'air. Elle se fait lamentablement recaler. Alors, l'actrice qui joue Natacha... Alors, j'ai lu que Natacha, donc, pour la BD, avait été inspirée physiquement hein, de plusieurs personnes. Il y avait Danny Carell, Mireille d'Arc, par exemple. Oui. Donc, bon, voilà, belle femme. Hein. Donc, effectivement, Natacha est très grande. Là, elle est interprétée par Camille Lou, qui est absolument magnifique. Hein. Voilà, enfin, il n'y a rien à dire. Du coup, elle se fait juste recaler parce qu'elle a... Oui, je te sens venir. Toi.
Oui.
Elle se fait recaler tout ça parce que il y a un examinateur. Voilà, il y a un examinateur qui peut pas la saquer, qui est prêt à prendre n'importe quel autre, mais juste elle non, parce qu'il la trouve moche. Et elle fait 2 cm de trop et elle a les cheveux plats. Donc en fait le chapeau de la compagnie aérienne ne tient pas sur sa tête, ce qui est vraiment n'importe
quoi.
Mais de quoi
parle-t-on ? Allô, voilà. Allô, vous êtes bien sur Fréquence 7, nous parlons cheveux plats.
Voilà.
Avec Cathy.
Et Walter, donc c'est cet examinateur qui la recale systématiquement. En fait dans la BD, il devient son ami et ils ont à chaque fois des aventures improbables qui leur arrivent. Et c'est ce qui va se passer dans le film là avec le vol de la Joconde, une espèce de politicien véreux très dans l'actualité, on va dire, aussi. Isabelle Adjani, qui joue une Italienne qui serait la vraie Mona Lisa. Donc, on aurait pu imaginer tout à fait Monica Bellucci dans le rôle, parce que c'est à peu près le même physique, la façon de parler italienne, très drôle comme ça. Mais c'est Isabella Gianni qui l'a joué, donc beaucoup d'autodérision aussi. Et en fait, on passe un moment entre la parodie, l'humour, les dialogues extrêmement bien écrits, percutants, le duo de choc Vincent De Dienne, Camille Lou pour Natacha et Walter... excellent, et on part dans un film d'aventure pendant une heure et demie avec une bande son plutôt plaisante et dynamique, et franchement on passe un très très bon moment quoi.
C'est vendu.
Eh ben non, j'aide plus. Oh là là, mais et puis en plus une bouffée d'air frais. C'est tellement rare qu'on parle d'un film, léger, drôle.
Léger, drôle et bien fait. Ouais.
C'est ça. Et franchement, moi, quand j'ai vu j'ai même pas vu la bande-annonce. J'ai vu juste l'affiche. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est encore cette comédie lourdingue qu'on nous a sortie? Et honnêtement, si vous voulez passer un bon moment, bien vous marrer, allez-y.
Ok, ça fait du bien aussi à nos idées préconçues.
Exactement.
Oui. Trop bien. Merci. C'est à voir à Aubenas et à Privas. Et la semaine prochaine, il sera à Rosières. Puis de toute façon, il est dans presque 700 salles. Donc, à mon avis, il va courir. Merci. C'est Natacha, presque hôtesse de l'air. Moins léger.
I'm scared, but all I want to do is talk about the truth. They have to know you're a journalist and this can get out. I have to be speaking up. This could be a big change. If something happened to me, promise me to publish this documentary.
La place des femmes, d'une certaine manière, non pas dans la France des années 70, mais dans le Japon des années 2010. Black Box Diaries de Shiro Ito, avec Shiro Ito, puisqu'elle adapte son propre livre.
Oui, et elle adapte aussi un événement de sa propre vie. Puisqu'elle a été violemment abusée par Yamaguchi, un journaliste japonais, couvert par rien que moins que Shinzo Abe, premier ministre. Du Japon. Donc on l'apprend dès le début du documentaire, donc je divulgue rien. Après un petit repas au restaurant durant lequel devait être question de l'avenir professionnel de Shiruito, il l'emmène à l'hôtel Sheraton, après l'avoir visiblement drogué. Donc on a les... Le film commence, s'ouvre là-dessus. Hein. On a l'arrivée de Yamaguchi, de journaliste, qui traîne plus ou moins Shiruito, là, futur journaliste, du taxi à l'entrée de l'hôtel. Donc on voit très bien qu'elle n'est pas dans son état normal et elle n'a pas non plus l'attitude de quelqu'un qui est ivre, par exemple, qui aurait trop picolé pendant le repas ou quoi. Et le portier s'en rend compte, il le dira après. Le chauffeur de taxi s'en rend compte. Donc la messe est dite, on sait ce qui s'est passé. Elle reprend conscience à 5 heures du mat et elle est sous le monsieur. Donc je crois qu'il n'y a pas tellement à discuter de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, elle veut porter plainte. Dans un premier temps, on prend même pas sa plainte. Finalement, on prend sa plainte. L'instruction ordonne l'arrestation de Yamaguchi. Et les policiers qui l'attendent à l'aéroport pour l'arrêter reçoivent un contre-ordre. Il ne faut pas l'arrêter. Voilà. Du chef de la police de Tokyo. Le chef de la police de Tokyo, c'est quand même haut déjà. Hein. Mais il y a au-dessus. Puisque le chef de la police de Tokyo, visiblement, est protégé par Shinzo Abe, le Premier ministre. Ça a quelque chose, si vous voulez, après avoir vu « Personne n'y comprend rien » sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, après avoir assisté au procès des emplois européens du FN, du RN, après avoir suivi le début du procès de Pardieu, on ne peut pas s'empêcher de faire un regroupement de tout ça pour en extraire... Évidemment, le sujet de la situation des femmes dans notre société, ça tu l'as dit, mais la plus globalement, la question de l'exercice du pouvoir. Et tout à fait honnêtement, avec ce documentaire, en voyant donc les coulisses du pouvoir, moi, ça, comme citoyen lambda, ça me fait l'effet d'être en plein rêve nocturne. Vous savez, il n'y a que dans les rêves nocturnes que vous pouvez vous trouver face à quelqu'un à qui vous expliquez des choses évidentes et qui vous regarde avec aplomb en faisant mine de ne pas du tout comprendre de quoi vous parlez. Vous savez ? Et dans votre rêve nocturne, ça revient, vous réexpliquez, on continue, votre interlocuteur continue à vous regarder avec un air niais et à faire mine de ne pas comprendre que vous avez un problème qui est lié à lui en plus. Voilà, bon. C'est cette espèce de sentiment onirique, mais en fait nightmare, enfin cauchemar.
Déréalisation.
Oui, qui vous... Parce que Yamaguchi, j'ai pas envie de développer tout le film, mais il finit par devoir rendre des comptes. Mais il admet que c'est pas très éthique ce qu'il a fait, mais au regard de la loi japonaise à l'époque, c'est pas illégal. Et il explique ça en conférence de presse avec exactement l'attitude que j'ai là derrière le micro avec vous à côté de moi. C'est-à-dire, il explique froidement qu'il ne voit vraiment pas le problème, quoi. Alors, moi, je dis que comme le film des journalistes de Mediapart, il faut aller voir ça pour se faire une piqûre de rappel démocratique. Remettre en cause les fondements, la légitimité ou pas des gens qui ont le pouvoir dans tous les secteurs. Pouvoir politique, pouvoir dans la culture, pouvoir omniprésent. Dans une classe de cours, dans des rapports de pouvoir, il faut se poser la question de ce qui légitime le pouvoir qui s'exerce sur nous ou que nous exerçons sur les autres et... essayer de faire la part de la nécessaire violence qui gît derrière cette plus ou moins valable légitimité. Voilà.
Question de la violence légitime.
C'est ça. La question de la violence légitime. Ici, évidemment, violence totalement illégitime. C'est un documentaire. Bon, du point de vue de la réalisation, moi, j'ai pas les mots pour dire qu'il me paraît moins bien fait, par exemple, que le documentaire des journalistes de Mediapart sur Sarkozy-Kadhafi. C'est moins. Mais.
En termes de montage, peut-être parce que.
C'est ça, quoi, voilà, montage.
La narration, quoi, on la suit, elle se met peut-être en.
C'est peut-être un petit peu maladroit, mais on est de toute manière, enfin, à moins d'être aussi limité affectivement ou à moins d'être sociopathe, normalement, on est de toute manière emporté par la destinée de cette journaliste.
Je crois que c'est la force du film.
Voilà. Oui. Hein, voilà.
Et le courage.
Elle est magnifique dans tous les sens du terme. Elle est magnifique. Voilà.
Black Box Diaries de Shiro Ito. C'est à voir au Teil la semaine prochaine à Priva. Et le film sera bientôt au Vence. On continue avec voilà, une autre forme de violence dont on s'émancipe peut-être un petit peu avec Mikado.
C'est notre maison, ce camion.
La couleur du ciel.
La pièce, elle coûte un bras, et le délai de livraison, c'est 2 semaines.
En attendant la pièce, on peut rester dans votre jardin.
La rue que tu habitais.
Ils vont rester longtemps, tes potes, avec le camion, là.
Ils ont pas la vie facile, hein. Ça, tu peux le comprendre, toi-même.
Officiellement, je suis jamais née.
Il se passe quoi si quelqu'un déclare pas son gosse? Tu vois pas que les momies se sentent bien ici?
T'as pas envie que ça?
Ah si, mais pas avec des choses qu'on peut pas se permettre.
C'est difficile, le collège.
Tu veux y aller ?
Il est très gentil et très intelligent, je trouve.
Il est prof, quoi. Tu crois que je vois pas ce que t'es en train de faire ?
Je vous aime bien, c'est tout.
Tellement que tu veux me voler ma fille.
J'ai assez de problèmes comme ça, moi, dans ma vie, pour que vous veniez m'en rajouter.
Mikado de Baya Kasmi. On vient d'entendre Félix Moati, Vima Laponce aussi. Il y avait Ramzi Bedia. Mikado qui était présenté aux dernières rencontres des cinémas d'Europe. Et on avait interviewé d'ailleurs Baya Kasmi, peut-être on vous repassera le son, un de ces quatre. Baya Kasmi, donc, qui était réalisatrice de Youssef Salem a du succès, et puis qui est aussi scénariste de moult films avec son compagnon Michel Leclerc, Le Nom des gens, La lutte des classes.
Ouais, on l'a découvert aussi avec justement Le Nom des gens, plus particulièrement. Mmh. Effectivement, Baya Kasmi, là, elle nous raconte. Alors, le film s'appelle Mikado. C'est le prénom, enfin le surnom, on va dire, du personnage dans des personnages principaux, parce que les personnages sont une famille, des parents et 2 enfants. Donc les parents sont dans ce film-là, on va dire marginaux ou marginalisés, en tout cas volontairement, hein, ils ont choisi de vivre libre, d'avoir des enfants qui ne sont pas déclarés. Donc en soi, ils n'existent pas légalement, ces enfants, et ils passent comme ça leur vie à tracer la route, sur la route. Ils font l'éducation et les cours aussi dans la camionnette, à la maison, on va dire, mais il n'y a pas vraiment de maison puisque c'est de l'itinérance. Bah, y a des cours, mais y a une scène assez drôle, enfin, si on veut. Ouais. Dans le film qui va effectivement mettre un petit peu en porte-à-faux cette éducation, ce choix de vie et la réalité, enfin, de ceux qui vivent, on va dire, avec une maison sous un toit, qui vont à l'école. Bon, voilà, c'est le film joue vraiment là-dessus, sur cette opposition entre la liberté et
la conformité.
Ouais, c'est puisque... ça, en tout cas, la normalité, on va dire. Mmh. Allez, la normalité, on va peut-être l'opposer comme ça.
Puisque cette famille va rencontrer...
Justement. Alors, exactement. Donc, cette famille a une panne à un moment, donc va devoir rester sur un lieu. Ils vont rencontrer un personnage qui est un enseignant, qui est interprété par Ramzi Bedia. Et donc, ça va effectivement poser plein de questions, puisque lui a une ado. Donc, forcément, les filles vont se confronter aussi. Et l'ado ado va, qui s'appelle d'ailleurs, je ne sais plus, qui a un prénom original, Nuage, va se poser plein de questions, parce qu'effectivement, elle va se dire, est-ce que c'est la norme, ce qu'on est en train de vivre, ou pas du tout. Mais on sent, alors moi ce que j'aime dans le cinéma de Baya Kasmi, c'est qu'elle va quand même au bout de l'histoire. Alors c'est vrai qu'il s'appelle Mikado, pourquoi ? Parce que le personnage principal, c'est vrai que tout repose sur lui, parce qu'il a eu une enfance très compliquée, des rapports avec des parents et une mère notamment, et en fait on va suivre aussi ce fil-là, sa vie, et comment il est à fleur de peau, comment c'est compliqué dans sa tête. Et en même temps, il veut aussi être un bon père, et il est, à mon avis, un bon père. Hein. Et c'est vrai que tout repose sur lui, mais la cellule familiale est ultra importante. Et est-ce qu'elle va éclater ou pas ? En tout cas, Baya Kasmi va au bout. Je trouve qu'elle va au bout du film. Elle ne nous épargne pas. Ce n'est pas un feel-good movie. Enfin, il y a plein de bons moments, mais il y a aussi du mauvais là-dedans, parce que la vie, c'est ça. Il n'y a pas que du bon et du mauvais. Il y a un mélange des deux. Et c'est ça que j'aime bien, qu'elle sait bien écrire des histoires, et ce film-là, on est encore un exemple je vais laisser la parole peut-être à Olivier pour qu'il puisse en parler, mais en tout cas, est-ce qu'on peut vivre heureux à l'écart de la société ou pas?
Je l'avais vu aux Rencontres, effectivement, et globalement, c'est un film qui est intéressant. Bon, moi, je connais mieux l'univers du roman que l'univers du cinéma. Et beaucoup de comédies dramatiques comme Mikado me font penser au roman. Et à une chose qui se produit de plus en plus dans le roman, c'est que le roman, il a eu son heure de gloire au 19e siècle, hein, avec le personnage emblématique, son initiation, enfin, etc. Et puis, à la fin du 19e, début du 20e, le roman, il s'est un petit peu effondré avec Proust, Mouzil, etc., qui ont un peu sonné le glas du roman, et on passe à autre chose. Mais des romans, il en sort 600 par an, donc il y a des gens qui ont toujours envie d'écrire des romans, je sais pas pourquoi, c'est une drôle d'idée. Alors ils écrivent donc des romans, et ça a des prix en plus, hein, je veux dire, Goncourt, machin, un truc. Mais le problème, c'est que comme c'est un genre qui, à mon sens, est un peu vidé de sa substance, beaucoup de romans sont un peu fabriqués. C'est-à-dire, on fabrique des histoires, c'est comme... Le Jim, là, où je sais plus. Le roman de Jim, qui est un film. Et alors, effectivement, c'est...
Qui est un livre.
Qui est devenu un
livre. Voilà. Qui est un livre au départ.
Enfin, ouais. On ne sait plus. En tous les cas, il y a de grands rapports entre les romans dont je parle et les comédies dramatiques dont je parle en même temps. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire ?
Peut-être pas pour tout le monde là tout de suite, non. Mais ça va s'éclaircir, je pense, dans quelques sens.
Je trouve que parfois les histoires sont un peu fabriquées pour ensuite pouvoir parler de sujets de société divers, etc. Mmh. Voilà. C'est la seule limite, ça n'enlève rien à l'intérêt du film et au plaisir qu'on a de le voir. En particulier, là, je récupère ce que disait Cathy à la fin, à savoir qu'au moins on va au bout de l'histoire et il n'y a pas un tri qui est fait entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire.
Avec plusieurs personnages aussi,
oui,
peut-être.
Voilà, c'est ça. C'est assez complexe. Ouais. Voilà. Mais c'est le côté un peu artificiel, moi, qui me frappe parfois dans ces histoires qui sont un petit peu artificiellement montées, quoi, je trouve.
Mikado, donc c'est à voir au Navire, et la semaine prochaine il sera à Priva. On passe avec un autre film, Cassandre, très original. Black Dog.
C'est ça, je me disais que...
Eh ben oui, mais non, mais ce n'est pas Cassandre, mais c'est Black Dog, c'est pas grave. Allez, allons-y pour Black Dog de Hugh Grant, dont on a déjà parlé, et Cathy, tu nous en avais dit tout le bien Black Dog. Et cette fois-ci, c'est Olivier qui est allé le voir pour nous en parler.
Pour en redire du bien. Effectivement, Cathy m'avait donné envie d'aller le voir et je souscris entièrement à son idée. C'est un des tout meilleurs films de ces derniers temps. Quoi. Enfin, c'est clair que quand on sort de Black Dog, on n'a pas l'impression d'avoir vu un film de plus. Quoi. On a vu un film. Voilà. Donc l'histoire, c'est un homme qui sort de prison après une histoire d'homicide dont on ne sait pas bien comment ça s'est passé. Enfin, et il retourne dans sa ville, au bord du désert de Gobi. Et donc on est dans un paysage minéral extrêmement sombre, lunaire, poussiéreux, etc. Et on est dans une ville qui est elle aussi en pleine mutation, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle change de modèle économique, surtout à l'approche des Jeux de Pékin. Donc en fait, le projet c'est de démolir la majeure partie de la ville pour construire des usines. Vous savez, les Chinois font maintenant ça, des villes-usines, c'est quelque chose de complètement fou. Et donc, on est dans un univers, on a envie de dire qu'on est dans un monde en ruine, sauf qu'on est dans un monde en ruine actif, c'est-à-dire on est dans un monde qui se fait détruire. Les choses minérales, les vivants, les animaux, et les humains, tout est déstructuré, tout est remis en cause, bouleversé. Et on est dans une ambiance un petit peu apocalyptique, quoi. Les gens qui sont déplacés de force de leur foyer, en général, se débarrassent de leurs chiens, parce que c'est pas pratique quand on est comme ça exilé. L'endroit est envahi par des chiens qui progressivement retournent à l'état sauvage. Et en parallèle, il y avait dans cette ville un zoo qui lui aussi est complètement en déshérence. Il est tenu plus ou moins par le père du gars qui revient de prison. Et là, il y a des animaux sauvages, loups, tigres, par exemple, dromadaires. Et ces animaux sauvages, sont de plus en plus domestiqués. Donc il y a une espèce de flou qui se produit entre les groupes animaux aussi et de la même manière entre les groupes humains, puisque là aussi ceux qui ont le pouvoir, ceux qui l'exercent sans l'avoir vraiment et ceux qui le subissent forment des groupes sociaux complètement désarticulés et dans lesquels il faut tenter de se faire une vie. Le boucher, par exemple, de l'endroit, qui est en même temps une espèce de patron de mafia, sa principale activité, c'est l'élevage de serpents pour la viande, d'une part, mais aussi pour leur venin qui peut servir à fabriquer les médicaments et les antidotes. Vous voyez cette espèce de confusion qui commence à régner dans tous les secteurs du monde, hein, le minéral, l'animal, l'humain, et évidemment l'événement, c'est qu'il va y avoir une éclipse quasi totale du soleil, et les gens vont faire de cette éclipse leur spectacle, et quand la lumière revient, on se demande si la lumière va revenir pour tout et pour tout le monde ou pas dans ce monde-là. Et là aussi, on va d'une certaine manière jusqu'au bout de l'histoire, je n'en dis rien. Et je ne sais pas comment dire. C'est un film qui marque comme un film essentiel, un peu. Voilà. Ouais. Parce que tout est en accord, la photographie, la mise en scène, le jeu des acteurs, tout contribue à faire un spectacle et une méditation, quoi.
Je connais trois personnes qui ont vu ce film. Toi, Olivier, toi, Cathy, et Geneviève. Geneviève et Didier. Et tous les trois m'ont dit que c'est un film incontournable.
C'est exceptionnel.
Extraordinaire.
C'est exceptionnel.
Donc, à voir Black Dog. Il est encore au navire pour quelques jours. Et mardi, il sera à Tueil grâce à la Maison d'Image. Allez, le dernier film, avant de dire un petit mot de l'agenda, le dernier film, il s'agissait de Cassandre, non ? Mais je ne l'ai pas dans... Ah là 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 là, je ne suis pas allée au bout. Mais c'est pas grave, on va en parler quand même sans le petit son de bande-annonce.
Oui. Alors, Cassandre, c'est un premier film d'Hélène Merlin qui a été un long travail pour elle, puisque c'est un film qui s'inspire de son vécu. Et vu le contexte, on comprend complètement qu'elle a mis du temps à raconter cette histoire et à choisir de la réaliser. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? Là, on est dans l'été 98. Cassandre a 14 ans. Elle vit dans une famille aisée. Son père est un ancien militaire. Voilà, sa mère et son frère. Là, on peut faire un pont. Tous les films dont on a parlé, la famille a son importance, vraiment. Le cadre familial et surtout la question, mais ça revient plus par rapport à Mikado, mais sur la normalité. Là, c'est exactement ça aussi. En fait, elle évolue dans une famille qu'elle pense normale. En tout cas, elle n'a pas d'autre père, elle a la sienne. Et en fait, elle découvre... Donc elle rentre, puisqu'elle est interne, elle rentre cet été-là et elle décide d'aller faire du cheval parce qu'elle est passionnée d'équitation. Et c'est quand elle intègre le petit centre équestre dans lequel elle va se rendre compte que, ses rapports avec ses parents, dans sa famille, ou ce qu'elle est, elle, sont vraiment très décalés avec les autres jeunes qu'elle va côtoyer. Voilà, enfin, elle est quand même un peu à part, et elle, là aussi, comme la jeune nuage dans le film Mikado, elle va prendre conscience. Ouais. Est-ce que c'est vraiment la norme, ce que je vis, et est-ce que c'est normal de vivre ça ? Et donc, le film... on réalise que le cadre familial n'est pas très sain, donc le film est fait de manière, est construit de manière assez originale avec un personnage féminin interprété par la mère interprétée par Zabou Breitman, qui est vraiment complètement décalé avec le père ancien militaire, très droit dans ses bottes, il n'y a pas un truc qui le dépasse, mais qu'est-ce que ça cache quand même, parce que bon, les rapports avec la fille sont particuliers, avec sa fille, donc avec Cassandre. La mère, elle est un petit peu fofolle, un petit peu elle passe au-dessus plein de trucs parce que elle a décidé que sa vie ce serait plus dans la joie que dans la souffrance ou dans la douleur. Et puis il y a le frère qui commence à voir que Cassandre change de corps, devient ado, devient une femme, a des formes, et c'est là que on rentre dans le côté plutôt incestueux de l'histoire. Voilà. Mais pour autant, le film n'est pas du tout sombre. Enfin, il est fait avec beaucoup d'intelligence. Je pense que le fait qu'elle ait tiré ça de sa propre histoire, forcément, elle a pris beaucoup de recul pour pouvoir la raconter. Et ça rend un film qui est très original. Elle a essayé de cacher le côté malaisant de la situation et du cadre familial tout en le montrant. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, c'est un film qui reste bien là quand on l'a vu et qui est à la fois dérangeant et en même temps nécessaire. Et je ne sais pas quoi en dire de plus, mais l'interprétation, alors c'est Billy Blin, la jeune actrice qui joue Cassandre, elle est incroyable, elle est extraordinaire dans ce film. Et puis Eric Ruff, ça c'est une comédie française, donc il joue le père, et Zabou Breitman, enfin ça donne un cocktail particulier et assez explosif, mais super
Eric
intéressant.
Ruff, c'est assez souvent impressionnant, Eric Ruff.
Ah oui, il a une posture, un charisme incroyable, ça c'est clair.
Cassandre, donc c'est à voir à Priva, et la semaine prochaine, il sera à Rosières. Pour terminer, 2-3 infos agenda. Ce soir, d'abord, il y a le ciné-culte Les Disparus de Saint-Agile, Auteuil, film de 1938 avec Petit Débat, bien sûr. Ce soir aussi à Fabras, il y a Bonjour l'Asile de Judith Davis à 20h30 avec un petit apéro en amont.
Salmon à 19h30 et ce soir et demain, grâce à la Maison de l'Image qui participe au festival Fureur d'Avril pour la première fois. Deux films, Cathy, raconte-nous. Fureur d'Avril, alors, en deux mots.
Fureur d'Avril, c'est un festival qui existe depuis 2019, qui est proposé par le GRAC, enfin le réseau de médiation et médiateur du GRAC, donc qui est une structure, enfin une association territoriale qui œuvre pour le cinéma, la diffusion et la médiation, donc l'accompagnement de films. Là, deux films ont été choisis. Donc ce soir sera projeté Mamma Mia. Alors, on a fait un travail aussi avec le Conseil municipal des jeunes de Tueil.
Voilà, ont été choisis par
le Conseil, les jeunes du Conseil municipal de Tueil pour encadrer ces deux soirées avec notre médiatrice Véronique. Donc, ce soir sera projeté Mamma Mia. Il y aura des cocktails sans alcool amusants à déguster et un quiz musical, bien sûr, aussi pour faciliter l'ambiance festive autour du film. Et puis, demain, donc ça c'est à 20h30 ce soir, et demain soir à 20h demain, il y aura Mickey 17, donc le film de Bong Joon-ho dont on a déjà parlé sur cette antenne, et là il y aura un quiz sur les Mickey célèbres. Bon, enfin voilà, vous aurez compris, c'est plutôt du festif. C'est vivre ensemble et pour les jeunes et par les jeunes, enfin en tout cas ces moments.
C'est ça qui est super intéressant. C'est les jeunes qui ont participé à la programmation, c'est eux qui vont faire les animations. Et donc voilà, soyez là à Tueil. Et c'est. Alors il faut que je le dise parce que tous les atogiens de moins de 18 ans, c'est gratuit. Les atogiens, mais j'adore. Pourquoi les atogiens
Sinon,
les habitants de Tueil.
Un tarif unique à 5 euros, donc c'est peu cher. Et c'est un festival, en tout cas, qui est soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par le CNC dans le cadre de son projet ambassadeur jeune du cinéma.
Oula, tout est dit. Merci beaucoup, Cathy.
Merci
Olivier pour la réalisation de cette émission. Sylvain et Marion qui étaient là. Oui, non, pardon, Olivier. Olivier, merci. Et Sylvain et Marion, qui a prêté main forte derrière la vitre à la régie. On se retrouve vendredi pour plein d'autres films. Ciao.